Ce sont des seniors. Qu'ils fassent partie du 3e, du 4e ou du 5e âge, elles et ils témoignent de leur vécu, de leur expérience, de leur vision du monde. Ce monde qui est aussi notre patrimoine vivant. À l'abordage, une émission proposée par Sarah Hautesser. Three flops in a row. It feels the flow. Yo-ho, yo-ho. He's the man. He's the man who never stops. À l'abordage, aujourd'hui, avec Jean-Louis. Bonjour Jean-Louis, tu sais pourquoi on est là, de quoi on va parler aujourd'hui ?
Bien, si j'ai bien compris, on va parler de ce passage de la vie active à la vie sédentaire de retraité que je suis maintenant.
Donc c'est comme ça que tu te définirais, retraité ?
Non, pas du tout. Non, 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 j'ai pas ça dans la tête. Par contre, dans ma vie, ça se ressent. Je suis retraité, je ne suis plus actif. Par contre, voilà, il y a ce hiatus aussi à gérer quand on est retraité, à savoir qu'on n'est plus dans la vie active, on n'est plus dans les réseaux sociaux, j'ai envie de dire, qui relèvent de la vie active. On est passé à autre chose, et pourtant, dans la tête, je ne suis pas différent. Et ça, ce n'est pas forcément facile.
Si je te dis, il n'y a pas d'âge pour s'ausculter.
Alors, s'ausculter, au sens psychique ou physique, bon...
Les deux.
Les deux. Il n'y a pas d'âge pour s'ausculter. Je pense que c'est très important d'avoir une approche un peu socratique des choses. Connais-toi toi-même et deviens ce que tu es. Bon, ça, j'ai commencé il y a très longtemps, ça, assez jeune, où j'ai pensé que ma richesse intérieure était à découvrir. Et qu'il était indispensable de la découvrir pour la mettre au service des autres aussi. Bon, après, voilà, j'ai continué, je continue. Après, et sous l'aspect physique des choses,
Est-ce que tu es quelqu'un qui va régulièrement chez le médecin, qui fait attention à sa santé, ou tu y vas quand les choses, tout à coup, se déglinguent ?
Ouais, c'est une des choses qui a changé, à savoir qu'avant, je me laissais plutôt... j'y faisais pas tellement attention, sauf au moment d'accident, de santé. Alors que maintenant, j'ai découvert, en fait, le côté très précieux d'une bonne santé. Et donc, je me suis, si je peux le dire comme ça, très régulièrement... pour préserver ma santé, pour que je puisse vivre au mieux les années qui me restent à vivre.
À quel moment est-ce que tu as vu ton corps changer ? Est-ce que tu peux le dater ?
Oui, il y a une dizaine d'années. Oui, une bonne dizaine d'années. Oui, oui.
Je peux te demander ton âge ?
J'ai 65 ans et quelques poussières. Voilà, donc je les ressens avec les douleurs qui arrivent, bien évidemment, à partir de 50 ans. Hein, comme on dit. Voilà, à partir de 50 ans, si on se réveille un matin et qu'on a mal nulle part, c'est qu'on est mort. Voilà, donc effectivement, ça c'est une habitude à prendre, mais néanmoins, ça s'entretient, et ça s'entretient en particulier par de l'activité physique, par un suivi médical, par une connaissance aussi de ces douleurs, d'où elles peuvent venir, qui entraînent après des efforts à faire, donc côté régime, côté activité physique, côté etc. Mais bon, ça c'est salutaire. Moi, je pense que c'est bien, parce que qu'est-ce qu'on est bien quand on est en forme, quoi, ou quand on se sent en forme. Bon, néanmoins, c'est vrai que mon corps a changé, le rapport à mon corps a changé, le rapport des autres à mon propre corps a changé, et je le sens, et je le ressens, et parfois, c'est pas forcément facile à vivre. Voilà, parce que dans ma tête, je reste quelque part jeune, et donc en dehors de mon corps, un peu.
Quand tu dis le rapport de mon corps aux autres a changé, le rapport des autres à mon corps a changé, qu'est-ce que tu veux dire ?
Eh bien, par exemple, quand on me dit « bonjour monsieur » au lieu de me dire « bonjour Jean-Louis », voilà, je sais que j'ai changé et qu'aujourd'hui je fais vieux. Voilà, ou du moins plus vieux qu'avant. Et donc, ça, c'est pas forcément marrant, quoi.
On parlait d'activité, enfin, tu en parlais. Si je te dis « il n'y a pas d'âge pour s'activer ».
Ah, mais ça, ça c'est sûr. Il n'y a pas d'âge pour s'activer. Et je suis encore à l'âge où on s'active. Bon, ma vie, moi, a été très, très, très active. Ma vie professionnelle a même été très, très riche.
Tu peux me dire ce que tu faisais?
Ben, j'ai fait plein de choses, en fait. J'ai changé 36 fois de métier, en fait, dans ma vie, mais avec toujours un fil rouge qui a guidé, en fait, toutes ces évolutions, tous ces détours que j'ai pu prendre, ces virages, ces croisements, etc. C'est comment je peux intervenir dans le monde de l'économie, dans le monde de l'organisation, dans le monde de l'entreprise, pour faire en sorte que les gens soient le plus à l'aise, le plus heureux possible, le moins malheureux. Voilà, donc préservation de la dimension humaine dans le monde du travail. Voilà, ça a été un petit peu mon fil rouge, y compris dans le domaine de la culture aussi.
Est-ce que tu fais des activités physiques ou tu en faisais déjà avant ?
Bah, disons, c'est une de mes grandes frustrations. J'aurais bien aimé faire du sport. J'ai toujours voulu en faire et puis... On peut dire que mes parents n'ont jamais pensé que ça pouvait être très important. Voilà, pareil pour le piano, puisque je joue du piano aussi. Enfin bon, j'aurais aimé être un artiste, que je n'ai pas été, parce qu'on m'a privé à la fois de sport et de piano, sous prétexte de privilégier les études et la vie sociale. Bon. Donc du sport, j'en ai toujours fait un petit peu, mais pas très régulièrement. Et maintenant, depuis que je suis à la retraite, même un petit peu avant, j'en fais beaucoup plus régulièrement. Je fais du badminton, et puis de la marche à pied, et puis de la gymnastique, et puis voilà. Bon, je fais des choses comme ça pour m'entretenir. Et du badminton, j'en ai fait aussi en compétition, mais maintenant, il faut que je me calme un peu, quoi.
De quoi sont faites tes journées ?
Waouh ! C'est par période, des périodes très actives et des périodes très inactives. J'aime bien aujourd'hui m'activer dans la maison, par exemple, et faire des choses que j'avais jamais eu le temps de faire avant. Parce que j'aime bien bricoler, j'aime bien voir les choses s'améliorer autour de moi, l'environnement. Voilà. Et puis, il y a une chose aussi qui est importante à dire, c'est que ma femme travaille toujours. Et donc maintenant, je suis devenu l'homme d'intérieur. Hein. C'est-à-dire donc je fais la lessive, le repassage, la vaisselle, la cuisine, les courses, etc. Voilà, je m'occupe de la maison. Et c'est, ma foi, très gratifiant. Et c'est aussi, je veux dire, ça me ramène à l'époque où c'est moi qui bénéficiais du travail de ma femme. Voilà. Donc, et ça me permet de comprendre beaucoup de choses aussi.
C'est-à-dire ?
Ben que c'est un... Si on veut maintenir une unité dans le couple, dans la famille, une unité de relation, il faut soigner l'environnement, il faut être là. Et puis c'est une manière aussi de comprendre que l'autre, quand il travaille, ben il peut pas être à la maison et tout faire en même temps non plus. C'est aussi... C'est une bonne manière de s'occuper de l'autre, voilà. Et puis de s'occuper des enfants, c'est aussi une bonne manière d'éduquer, je pense, les enfants en leur apprenant à participer à la vie commune et à partager les choses. Voilà.
Ben justement, si je te dis il n'y a pas d'âge pour partager.
Ah, ben, quelle transition. oui, ça c'est difficile comme question. Moi, je pense que ma vie professionnelle a consisté à effectivement acquérir beaucoup de connaissances, de savoirs, de pratiques, d'expériences, etc., pour pouvoir mieux partager avec d'autres, partager avec les jeunes, partager avec mes collègues, etc., c'est-à-dire leur confier en fait tout ce que j'avais pu construire moi-même pour qu'eux puissent en faire quelque chose. Bon, c'est un peu abstrait comme démarche, mais en gros, je pense que mon activité professionnelle, ma mission professionnelle, je dirais, a été de cet ordre-là. Enfin, quand je parlais d'auscultation interne tout à l'heure, quand je réfléchis à qu'est-ce qui donne du sens à ce que j'ai fait dans ma vie professionnelle, je pense que c'est un peu ça. C'est cette notion de partage qui en passe bien évidemment par le fait de, comme on avait dit un jour, de ne pas avoir de susceptibilité d'auteur, c'est-à-dire de ne pas me positionner dans une posture de pouvoir sur l'autre, voilà, mais au contraire dans une posture de partage, donc de parité, d'équité, d'égalité. Je ne suis pas plus que d'autres, mais par contre, si j'ai des choses à apporter aux autres, j'aime le faire. Dans ma vie professionnelle, par exemple, j'ai toujours recruté des stagiaires et fait un travail de fond avec des étudiants pour leur permettre justement d'acquérir ce savoir et cette pratique qui allaient devenir, eux, les ingrédients de leur vie professionnelle. Voilà, et ça, j'aimais beaucoup, j'ai toujours aimé partager ça avec eux, et je continue maintenant.
De quelle manière ?
De quelle manière ? Pas de manière très structurée pour l'instant, parce que je ne me suis pas encore véritablement engagé dans une nouvelle vie sociale, associative ou autre chose, quoique, bon, en partie quand même. Mais je considère qu'un un de mes rôles aujourd'hui, un de mes devoirs, c'est de partager tout ce que j'ai acquis, moi, dans ma longue vie professionnelle, avec d'autres, et de le mettre à disposition des jeunes en particulier. J'aime beaucoup le contact avec les jeunes, d'autant plus qu'eux, au moins, ils sont à l'écoute, ils n'ont rien à revendiquer, on sent qu'il y a toute l'intelligence du partage qui est là. Parce que pour partager, il faut aussi... C'est pas très modeste ce que je veux dire, mais enfin, il faut avoir une certaine dose d'intelligence quand même. Voilà. L'intelligence consistant en l'occurrence à savoir faire des choix. Voilà. Et les choix pour moi, c'est de partager justement tout ce que j'ai. Quand je joue de la musique, je partage. Voilà. Je joue pas de la musique pour briller, c'est pas ça, mais parce que c'est une autre manière de s'exprimer, de dire des choses et de partager un moment avec quelqu'un d'autre.
Est-ce que tu as des enfants ?
Oui. Oui. Oui, j'ai des enfants. D'un premier mariage, j'ai deux enfants qui ont 43 et 45 ans, qui eux-mêmes sont mariés et ont des enfants, donc je suis grand-père, trois fois, voilà. Et puis de mon deuxième lit, comme on dit, voilà, qui a déjà 25 ans d'âge, on a eu un fils qui a aujourd'hui 23 ans et qui fait des études, voilà. Donc que des garçons, en ce qui me concerne.
Les petits-enfants, combien ?
Trois.
Quel rapport tu as avec eux ?
Je les vois assez régulièrement. J'aime beaucoup les voir et je crois qu'ils aiment beaucoup qu'on se voit aussi. Donc ils viennent régulièrement ici, pendant les périodes de vacances, ou quelques week-ends de temps en temps. Et c'est un peu la fête, voilà.
Qu'est-ce que tu partages avec eux ?
Alors, je partage avec eux... Je pense des choses qu'ils ne partagent pas avec leurs parents, voilà, et c'est ça qui est assez agréable et profond avec eux, c'est qu'il y a des choses qu'on peut se dire qui ne se disent pas entre eux et leurs parents, voilà, sur ce qu'ils vivent, comme ils le vivent, sur des questions qu'ils se posent, sur la vie, parce qu'ils s'en posent, même petits comme ça, on se pose pas mal de questions sur la vie.
Et, pardon, ils ont quel âge ?
L'aîné a 10-11 ans, elle vient d'entrer en 6e, et ensuite les deux autres ont 8 ans, avec déjà quelques interrogations de type métaphysique qui sont assez intéressantes à travailler avec eux, voilà. Et puis bien évidemment après c'est, on fait la fête, on voit des choses, je sais pas, quand on les emmène à la Cité de l'Espace ou faire des grandes balades à vélo sur les bords du canal ou des choses comme ça, bon évidemment c'est des moments inoubliables pour eux et qu'on partage avec beaucoup de joie. Et c'est un autre pan de la vie, c'est le rôle des grands-parents. Voilà, ça n'empêche pas de prendre part à leur éducation, ou bien au contraire, même, je pense, parce que ça leur donne un autre point de vue sur la vie, sur les codes sociaux, sur les codes de respect de l'autre et sur d'autres manières de vivre le quotidien, même si pour eux, souvent, c'est du quotidien de vacances. Mais enfin... fait partie de la vie.
Est-ce que c'était le même genre de rapport que tu avais avec tes grands-parents ? Tu t'en souviens ?
Alors, je me souviens de... J'ai eu très peu de rapports avec mes grands-parents. Assez peu, parce que mon père se baladait pas mal. Il travaillait dans le trésor public. Voilà. Donc, on a été déracinés très, très rapidement et très jeunes. Par contre, j'ai... donc, mes grands-parents... qui sont les parents de mon père, on se voyait essentiellement dans des circonstances de rencontres familiales. Donc c'était plutôt du style... c'était des moments de vie sociale, quoi, avec relativement peu de rapports de petits-enfants à grands-parents. Non, j'ai pas de souvenirs vraiment, vraiment très fort de ce côté-là, si ce n'est que, on les emmerdait plus qu'autre chose quand on était gosse, parce qu'on faisait bien évidemment que des bêtises. Bon, la seule chose dont je me souvienne et qui n'est pas forcément un bon souvenir, c'est lors d'une communion privée, si je me souviens bien, mon grand-père paternel qui nous a fait fumer notre première cigarette. Et on avait 10 ans, tu vois. C'est pas forcément ce qui avait de plus malin. Voilà, autrement, ma grand-mère maternelle, oui, j'ai un souvenir très, très fort avec ma grand-mère maternelle, puisque c'est elle qui m'a appris à jouer du piano. Et c'était une femme très forte, une très forte femme avec qui j'ai eu un rapport affectif très, très proche. Très proche, même si j'étais tout petit. Voilà, bon, néanmoins tout petit. C'était à l'âge de 6 ans à peu près quand j'ai commencé à jouer du piano avec elle. Et puis, un an après, on partait et je la revoyais plus. Et je ne l'ai plus véritablement revue que quand j'ai eu 17 ans, quelque chose comme ça. C'est-à-dire qu'on est revenu en fait dans le village de naissance et où j'ai retrouvé ma grand-mère et son piano. Et donc, je me suis remis au piano, du reste, seul à cette époque-là. Et j'ai renoué cette relation avec ma grand-mère qui, voilà, et puis elle est morte dans mes bras pratiquement. Donc, ça aussi, ça crée du lien. Je suis toujours en communication avec elle, en relation très très forte. Voilà, ça m'aide beaucoup. C'est très émouvant parce que ça me ramène à une époque où j'étais respecté par quelqu'un. Voilà, et j'étais considéré comme un être humain.
Voilà. Pourquoi ça n'a pas toujours été le cas ?
Je ne pense pas, non.
Non. Dans la famille ?
C'est difficile à dire. C'est difficile à dire. Voilà, j'ai eu l'occasion, effectivement, de m'ausculter sur ces sujets-là, pour revenir à cette question. Oui, on a toujours des comptes à régler avec son enfance et son adolescence. Et voilà, mais bon, ça ne sert à rien d'en accuser qui que ce soit. Ce qui que ce soit n'y étant probablement strictement pour rien, quoi. Mais bon, c'est vrai que le vécu que j'ai de mon enfance et de mon adolescence aussi, en particulier, c'est pas forcément les meilleurs souvenirs que je peux avoir. Voilà. Je me suis pas forcément senti respecté comme être humain, si ce n'est éventuellement d'être porteur un peu des fantasmes de mes parents que je ne partageais pas nécessairement.
Tu disais que tu avais été déraciné. Tu n'as pas toujours vécu à Toulouse ?
Non. Je suis né dans un petit village de Bourgogne, de la Bourgogne du Sud, voilà, dans la Bresse. Et puis, dès l'âge de 6 ans, 7 ans, on est parti en Haute-Loire. Après, on est parti dans le Jura. Voilà, on est revenu un tout petit moment, quand j'avais 17 ans, dans le village natal. Mais je suis reparti directement à Paris pour aller faire mes études. Et puis ensuite, je suis revenu à Lyon pour finir mes études. Après, je suis parti à Paris pour travailler. De Paris, je suis parti à Limoges. Puis de Limoges à Brive-la-Gaillarde. Et de Brive-la-Gaillarde à Toulouse, où pour l'instant, j'ai terminé. Mais bon, où est-ce que ça va me mener, tout ça, je ne sais pas.
Alors, si je te dis, il n'y a pas d'âge pour voyager.
Il n'y a pas d'âge pour voyager. Et j'ai commencé très, très jeune à voyager. Mais dans ma tête, dans mes rêves. Voilà. Voilà, on m'appelait Jean de la Lune. Quand j'étais petit, j'étais toujours dans les nuages, en train de rêver. Voilà, donc ça, c'est le voyage intérieur, je connais beaucoup et je continue. Et ça, c'est une richesse à laquelle je tiens beaucoup. Après, le voyage physique, la découverte du monde, oui, je pense que c'est essentiel. Et plus je voyage, plus j'ai envie de voyager. C'est la découverte de l'autre, la découverte de soi chez l'autre. C'est d'une richesse considérable. Et donc, j'y tiens beaucoup. Par contre, j'ai beaucoup de difficultés à faire le premier pas pour partir. Voilà, et heureusement que j'ai une femme qui, elle, fait ces premiers pas-là m'incite à partir au voyage. Autrement, je me contenterais volontiers de mes voyages intérieurs. Voilà.
C'est-à-dire qu'elle désire, mais il faut quelqu'un pour l'organiser ?
Oui, c'est un peu ça, oui. C'est un peu ça. J'agis beaucoup, mais je ne suis pas forcément un homme d'action. Je suis très, très actif, mais je m'éclate plus dans les idées que dans les actes, voilà. Du reste, des amis québécois m'avaient donné un surnom, l'idéateur. C'est rigolo comme mot, c'est-à-dire que, en gros, ils trouvaient que j'étais quelqu'un qui produisait des idées, voilà, et dont la qualité était d'être capable, dans toutes circonstances, enfin toutes qui me sont familières, disons, de fabriquer de nouvelles idées. D'être, c'est pas créatif, c'est idéateur, c'est même avant la créativité, quoi. Ça m'avait surpris, qui me donne. Mais ça supposait que derrière, une idée ne pouvait être véritablement bonne que si elle était mise en œuvre. Elle pouvait être mise en œuvre. Et moi, je ne suis pas l'homme de la mise en œuvre des idées. Et c'est là où je partage beaucoup de choses avec les autres. C'est-à-dire que partager avec les autres, c'est aussi compter, moi, sur les autres pour mettre en œuvre des idées que je peux avoir. C'est gonflé, quand même.
Voilà. Ça n'a pas changé. Tu as toujours été comme ça.
Ben, je crois que j'y échappe pas beaucoup. Ouais. J'en ai bien peur. Ouais. Ce qui fait que je peux paraître parfois dans un monde qui n'est pas forcément celui des autres, quoi. C'est ce monde des idées, ce monde de comment on pourrait faire pour que les choses se passent mieux, comment on peut faire pour faire du lien entre des choses dans lesquelles il n'y a pas de lien, etc., pour imaginer d'autres voies, d'autres concepts, d'autres idées, voilà, qui peuvent aboutir à du mieux dans un domaine ou dans un autre. J'ai souvent été à l'initiative de choses que je n'ai pas pu, moi, après, mettre en œuvre, parce que le sens, pour moi, est dans l'idée. Et bien sûr, ça a du sens que cette idée puisse être mise en œuvre, mais c'est pas mon truc. Voilà, je sais pas faire. Enfin, je sais pas faire, ou je m'y prends mal, je sais pas. J'étais un des premiers, par exemple, à... et ça, je le revendique, voilà, parce qu'il y a des choses dont je suis fier de ce que j'ai fait. J'ai été un des premiers à parler de burn-out en France, voilà, et à écrire les premiers articles dans la presse professionnelle, ces titres-là. Mais ça remonte à 20 ans, à plus de 20 ans. Alors que le burn-out, on en parle aujourd'hui, véritablement. Et on n'en parle pas autrement que ce que j'en disais. Mais je n'ai jamais réussi à faire passer l'idée. Voilà. Par contre, j'étais un des premiers à en parler.
Oui, mais est-ce que le burn-out existait il y a 20 ans? Est-ce que tu l'as senti venir?
Ben oui, il faisait déjà des dégâts, pas mal. Mais par contre, il n'était pas question d'en parler, parce qu'on n'imaginait pas qu'une organisation de travail puisse être toxique au point de rendre les gens malades, quoi. Bon, mais ça, j'ai découvert ça en allant voir nos cousins québécois, qui eux étaient beaucoup plus avancés dans leurs idées et dans leur travail sur ce domaine-là, et qu'ils avaient déjà intégré dans leur mode et dans leur pratique, en particulier pratique de santé, pratique professionnelle. Oui. Ouais, mais ils sont moins coincés que nous, quoi. Il y a moins de rigidité institutionnelle, entre autres, qui font que peut-être ils ont plus de facilité pour mettre en place des nouvelles choses de cette nature. Par contre, peut-être qu'ils vont moins aussi en profondeur, contrairement à nous, quoi. Ou quand on commence à faire des choses, nous, on y va très profondément.
Si je te dis, il n'y a pas d'âge pour s'informer, toi qui es un idéateur.
Moi qui suis un idéateur. Moi, l'information, pour moi, le rapport que j'ai à l'information, ou à la connaissance même, au sens large, c'est pas forcément d'acquérir un savoir un peu encyclopédique ou académique des choses. Ça m'intéresse absolument pas. Et de ce côté-là, je manque profondément de culture. Quand je lis un bouquin, moi, je retiens ce qu'il y a d'essentiel ou qui fait sens dans ce bouquin. Mais les premières choses que j'oublie, c'est le titre du bouquin et le nom de l'auteur. Bon. C'est un handicap. voilà. Par contre, la substance même de ce que j'ai pu acquérir, soit dans un article de presse, soit dans une émission de radio, de télé, de choses, etc., c'est véritablement la substance qui fait que moi j'ai envie d'en faire quelque chose. Voilà, c'est-à-dire de l'intégrer dans autre chose, et puis l'intégrer, et puis voir comment ça permet de dépasser. Voilà, c'est très, comme on disait, bachelor épistémologique. Voilà. Bon. Ouais, c'est-à-dire comment arriver à intégrer un savoir et puis permettre à ce savoir de venir nourrir autre chose qui va permettre le dépassement, c'est-à-dire aller en faire quelque chose, voilà, en faire quelque chose d'autre. Alors, c'est ça qui m'intéresse. Je peux dans toutes les démarches que j'ai pu avoir de connaissances, de savoir, je peux identifier quelles sont quelques sources qui m'ont nourri et qui m'ont permis aussi de faire ce que j'ai fait et dont je peux être relativement satisfait aujourd'hui, parce que c'est important d'être content de ce qu'on a fait. Ça me paraît même essentiel. Je cherche quand même à être satisfait de ce que, ou content, voire fier parfois, de ce que j'ai pu faire dans ma vie, parce que autrement c'est la grosse déprime, quoi. Et ça, c'est pas bien. Et c'est vrai que je suis probablement, comme tout un chacun probablement, mais très mal placé pour juger moi-même de la qualité de ce que j'ai pu faire ou de ce que je peux être. Mais néanmoins, ce sentiment personnel, de, non pas d'être content de soi, c'est pas ça, mais de savoir que ce que j'ai été m'a construit et continue à me construire aussi... j'ai envie de dire, dans une dynamique de développement, que ça fait grandir, voilà, que ça relève d'une certaine qualité, voilà, c'est vachement important. Moi, j'ai pas envie de mourir en ayant le sentiment que j'ai raté ma vie, quoi. Voilà.
C'est quoi pour toi une vie réussie ?
C'est partir... une vie réussie, c'est effectivement... À la fin de la vie que ça s'évalue, j'imagine. Donc c'est probablement pour moi partir avec le sentiment que la vie a été remplie et que dans le fond, j'aurais fait du mieux que ce que j'ai pu, qui n'est certainement pas l'idéal, qui ne le sera pas, qui ne sera pas parfait, mais qui correspond au mieux de ce que j'aurais pu être et faire avec mes petits moyens. Avec mon éducation, avec mon caractère, ma personnalité, voilà. Mais partir avec un sentiment de satisfaction, quand même. Mais c'est pas partir forcément heureux, mais partir au moins avec ce sentiment de plénitude.
Je voudrais qu'on revienne sur l'information. Est-ce que tu t'informes plus qu'avant ? Depuis que tu es à la retraite, tu prends plus le temps ? Est-ce que tu sors plus aussi ? Est-ce que tu vas plus au cinéma, au théâtre ?
Oui, parce que j'ai plus le temps de ça. Alors, je m'informe plus aussi, mais pas forcément de la même chose. Alors, avant, je m'informais beaucoup, mais de tout ce qui relevait de mon activité ou mes activités professionnelles. Voilà, aujourd'hui, je m'intéresse beaucoup plus aux choses du monde, aux choses de la vie, aux choses de la société, aux choses de la culture. Voilà, à tout, la dimension plus humaine, voire humaniste des choses, quoi. Donc oui, je continue à m'informer.
Par quel biais, la radio, l'internet ?
Alors, il y a beaucoup internet, oui. Il y a beaucoup aussi, aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, le fait d'être informé par le biais de mes relations, qui elles-mêmes s'informent de leur côté. Et donc, du coup, ça fait un échange de centres d'intérêt, qui n'est pas inintéressant du tout. Parce que voir ce à quoi s'intéressent les autres, c'est aussi s'y intéresser et découvrir des domaines que je n'aurais pas découvert forcément tout seul. Donc, cette notion de partage, on la retrouve. Mmh. Je m'informe aussi des choses de la vie du monde aujourd'hui, parce que le monde me fait très peur, très très peur. On est en train de vivre une période noire et qui peut se noircir encore, et ça m'interroge. Ça m'interroge beaucoup et ça m'inquiète beaucoup. Ouais.
Plus noir que ce que tu as connu ?
Ah oui, bon, j'ai connu une vie rose, moi, il me semble. Enfin, j'ai eu ce privilège-là, c'est de vivre au plein cœur des Trente Glorieuses, avec une jeunesse, même si elle était difficile, plutôt dorée, avec un début de vie professionnelle extrêmement facile, où le chômage n'existait pas. Voilà, j'ai le sentiment d'avoir été un privilégié, mais avec beaucoup de frustration et de regrets aussi. Moi, j'ai le sentiment d'avoir vécu des heures absolument géniales en 68, en fait. J'étais étudiant à cette époque-là. Moi, j'ai passé le bac en 68. Il paraît que c'était un bac pourri, mais bon, enfin, je sais pas. Moi, je l'ai eu en juin. Il y a eu 17% de réussite en juin au bac 68 dans mon académie. Donc,
tu sais que c'est le spectacle de Cobert qui s'appelle Bac 68.
Oui, oui, oui. Oui, et que j'ai... et que je vais aller voir, du reste. Voilà. J'ai partagé beaucoup de choses avec Philippe Cobert à une époque, voilà, quand je l'avais fait venir dans mon théâtre à Honnay-le-Château, là,
qui est lui,
à la Baleine. C'est lui qui a fait le spectacle inaugural du théâtre. Et on a eu l'occasion de partager beaucoup de choses. Ouais.
Donc ce
bac 68, j'ai passé, donc je me suis retrouvé à l'université dès la fin 68, en fait, en plein boom, si je puis dire, et ça a duré quand même encore
un certain temps, mais c'était une période de foisonnement idéologique, politique, de prise de conscience politique, de dynamisme social, syndical. Je me suis retrouvé élu à l'UNEF, un élu national. Voilà, donc j'ai participé à beaucoup de réflexion, de débat sur ce qui pouvait libérer, en fait, libérer l'université de tous ces carcans. À l'époque, je me suis retrouvé à Sciences Po Paris dans un premier temps. Et après, je me suis retrouvé en fac de sciences éco et de droit à Lyon, qui n'est pas un lieu qui brille par son progressisme, si je puis dire. Voilà, donc il y a eu des débats encore d'autant plus forts, d'autant plus importants qu'effectivement, on était dans l'opposition entre des postures extrêmement humanistes et en face des postures extrêmement réactionnaires. Voilà, donc ça a été d'autant plus riche et on a réussi à faire beaucoup de choses dont je suis vraiment très, très content et puis très heureux d'avoir vécu ça. J'ai vécu cette dynamique-là. Aujourd'hui, où je me suis relancé depuis que je suis à la retraite dans le militantisme, je retrouve pas cette flamme. Je retrouve des logiques d'appareil, des logiques de carrière, etc., qui font que le militant n'a quasiment plus sa place là-dedans, si ce n'est d'être un colleur d'affiche, quoi. Je caricature, bien évidemment, à l'extrême, mais à l'excès. Mais bon, je ressens pas cette flamme qu'il y avait, où on avait le sentiment de construire, de participer à la construction d'une nouvelle société à la sortie de la guerre, de sortir du carcan, de la pénurie, voilà, et d'inventer un autre monde, un monde de paix, un monde de connaissances, un monde de savoir, un monde d'intelligence, voilà. Et aujourd'hui, manque de peau, tout ce qu'on a réussi à faire, c'est en fait à créer la société qu'on a à vivre aujourd'hui, quoi. Avec tous mes potes de l'époque qui sont aujourd'hui au pouvoir et dont je ne partage pas nécessairement les choix, justement, sur... Qu'est-ce qu'on a fait de ce qu'on a voulu faire ? Voilà, c'est un petit peu la question que je me pose aujourd'hui et qui me fait beaucoup souffrir, parce que je pense qu'on a obtenu le contraire de ce que nos discours et nos engagements postulaient à l'époque. Voilà.
Et que les enfants, que vos enfants payent aujourd'hui, finalement.
Qui payent et qui vont avoir à réparer. Alors, je leur fais confiance, globalement, même si c'est sûrement pas facile et que ça prendra du temps. Mais c'est effectivement les générations futures, nos enfants, nos petits-enfants, qui vont devoir réparer nos conneries, quoi. Ou nos faiblesses. Plus que nos conneries, parce qu'on faisait des choses intelligentes. Par contre, je sais pas, il y a cette espèce de système unique du capitalisme, en fait, on va l'appeler comme ça, hein, puisqu'il n'y a plus que lui qui existe, donc c'est, qui a conduit à la pensée unique, à l'abandon de toutes les utopies humanistes, à la mise au rancard de toutes les idéologies, ce qui me paraît être une erreur profonde, parce que c'est dans l'idéologie que naissent les idées, et les idées les meilleures, justement. Donc en tuant l'idéologie, on ne laisse que quoi ? Que les choses, que l'argent, que le pouvoir, que des choses extrêmement, comment dire, pauvres par rapport à ce qui peut se passer dans le monde si riche des idées. Et ça, on l'a perdu. Enfin, on l'a perdu, oui, on l'a perdu et on a contribué à le perdre. Alors bien sûr, bon, il n'y a pas de culpabilité particulière à développer là-dessus. C'est l'évolution du monde, c'est les cycles, etc. Mais bon, il n'y a pas de fatalisme non plus. Je pense qu'on a succombé au chant des sirènes de la société de consommation, de l'argent facile, etc., etc. Et du pouvoir par l'argent, tout bêtement. Et il n'y a plus que ça aujourd'hui, le pouvoir par l'argent.
Si je te dis, il n'y a pas d'âge pour s'entraider, ça existe encore ?
Eh ben, d'autant plus, oui, d'autant plus. Par contre, c'est pas facile, je pense. Je pense que c'est pas facile de s'entraider parce que on s'entraide avec qui ? Je pense que les communautarismes se sont beaucoup développés comme des phénomènes de régression et de repli sur soi, qui fait que on a tendance à s'entraider entre gens qui se connaissent, quoi. On se reconnaît parmi les siens et on s'entraide parmi les siens. Donc ça devient des démarches, non plus d'entraide, mais des démarches sectaires, quoi, de plus en plus. Voilà. Et ça, on le voit bien avec la crise des réfugiés aujourd'hui. Quelle idée peut-on avoir de s'entraider avec des réfugiés ?
Oui, mais toi, comment tu te positionnes ?
J'essaye de voir ce qu'à mon niveau, je peux faire. et je m'aperçois que je ne peux pas faire grand-chose. Si ce n'est, par exemple, comme je l'ai fait, me porter candidat pour accueillir des réfugiés syriens chez moi. Voilà. Mais pour l'instant, l'institution ne me donne aucune réponse. Je ne sais pas. J'ai pas de réponse. J'ai posé ma candidature, mais personne ne me dit rien. Voilà. Donc, est-ce que je vais continuer à attendre qu'on me contacte pour me dire « Vous, vous êtes porté candidat pour accueillir des réfugiés c'est gentil, merci, etc. » Non, même pas. Ça se passe ailleurs. Je ne sais pas. Donc là... Je ne sais pas ce que je vais faire, mais je suis dans cette logique et cette dynamique-là. C'est de voir ce que je peux faire à mon petit niveau pour apaiser la souffrance de certains autour de moi. Et non pas de m'entraider avec des gens qui sont comme moi, quoi, parce que ils en ont pas forcément, c'est pas eux qui en ont forcément le plus besoin. Par contre, dès qu'il y a un service à rendre à quelqu'un, je suis en général toujours là pour le faire. Voilà, parce que je pense important de maintenir des relations d'entraide et de solidarité entre les gens, parce que ça aussi, ça fout le camp, quoi. La solidarité, je sais pas, il y a quelqu'un qu'on connaît ou qu'on connaît pas, qui est dans la souffrance ou le besoin, ça me paraît complètement tombé sous le sens, pour moi, de lui venir en aide à la mesure de ce que je peux faire.
Mais tu as toujours été comme ça.
Ouais.
C'est ton côté 68-art.
Bon, ça datait d'avant, je crois, puisque si on parlait de mes grands-parents avant et de ma grand-mère. Ma grand-mère me surnommait mon bon Lalou. Voilà, parce que,
oh, oui, il voilà. Y en a des surnoms.
Voilà, il y en a des surnoms. Ouais. Voilà, il paraît que j'étais... Voilà, je suis un brave mec, quoi. Voilà.
Est-ce que tu es impliqué dans des associations?
Alors, j'ai essayé. Je le suis, hein. Je le suis. Et puis, j'ai essayé de m'impliquer dans d'autres. J'ai un peu de mal. Alors, je suis resté dans les associations qui étaient mes associations professionnelles. Il y en avait deux, hein. Donc, des réseaux de responsables culturels dans la région. Bon, j'y suis, mais j'y suis plus que, comment dire, comme une réminiscence du passé. que comme un membre très très actif, bien que voilà, ça me permet de continuer à être reconnu par mes anciens pairs professionnels, voilà, mais voilà, je suis le retraité de service, quoi, qu'on accueille volontiers et qu'on autorise à ne pas payer sa cotisation, voilà. Autrement, j'ai essayé de rentrer dans des réseaux d'entraide, justement. Mais j'y ai trouvé des choses qui me déplaisent profondément.
Qu'est-ce que c'est, les réseaux d'entraide?
Des réseaux d'entraide, en l'occurrence, c'était des réseaux pour accompagner des gens dans la difficulté d'insertion professionnelle ou d'insertion sociale, etc., pour les coacher, en fait. En gros, hein, y a des réseaux de gens qui s'investissent là-dedans et qui viennent apporter leur soutien à des gens qui sont dans la difficulté. C'est des choses que comment dire, qui ont fait partie de mon fonds de commerce professionnel. Moi, je sais faire ça, de mes compétences. Mais quand il s'est agi pour moi de me retrouver dans un cadre associatif, structuré, machin, etc., bon, j'ai retrouvé des logiques de pouvoir, des logiques de territoire, des associations concurrentes qui font la même chose et qui se tirent la bourre entre elles, etc., sur des postures qui ne sont pas forcément des postures très généreuse. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui interviennent là-dedans, qui y interviennent, et ce n'est pas une critique, hein, forcément, mais plus pour continuer à avoir un statut d'utilité sociale que pour s'intéresser à la problématique à laquelle ils sont censés s'intéresser. Et donc, personnellement, ça me heurte. Je suis un peu un puriste de ce côté-là, et ça m'agace. Donc, alors ça ne veut pas dire que c'est pas bien ce qu'ils font, au contraire, c'est même très bien, mais je ne me sens pas, moi, de me retrouver dans une situation où je serais amené à faire des choses, pour moi, contre-méthodologiques, quoi, enfin, quelque chose comme ça. Alors je préfère continuer à les faire comme ça, de façon spontanée, individuelle. Quand je rencontre quelqu'un qui est dans le besoin, je lui apporte effectivement ce que je lui apporte, mais en dehors d'une... d'une structure associative, etc. Bon, c'est parce que j'ai pas encore réussi à trouver ma véritable place de retraité là dans la société des retraités. Voilà. J'ai pas trop envie non plus de me retrouver dans cette obligation d'aller dans le club du troisième âge pour pour y aller faire ma partie de cartes ou faire des... Voilà. J'ai pas envie d'être mis dans une case de vieux tout de suite. J'ai le temps pour ça.
Comment tu vois les autres retraités ?
Ben, il y en a plusieurs catégories. Il y a des retraités que je trouve hyper actifs et qui restent vraiment avec des apports, qui font des choix de vie. Oui, des choix de vie, des choix de gérer leur temps, être enfin en capacité de faire ce que l'on veut du temps qui est le nôtre, sans avoir de pression particulière, ni de contraintes, ni d'obligations, ni de compte à rendre à qui que ce soit, si ce n'est à soi-même, ce qui est déjà pas mal. Voilà, mais comme moi, reste très investi dans la société, dans la vie, etc. Mais à leur manière, et qui ne répondent pas forcément aux sollicitations d'un système qui voudrait intégrer tout le monde dans une norme qui n'est plus la nôtre de retraités. Voilà. On change de monde, on change de normes aussi. Ça, c'est peut-être intéressant à voir. Et voilà, moi, j'ai pas envie de me faire instrumentaliser par la norme de ceux qui restent dans ce monde des actifs. Voilà, parce que moi, j'y suis plus. Et ce que j'ai éventuellement à apporter aujourd'hui relève du monde dans lequel je suis aujourd'hui et plus de l'autre. Je crois qu'il faut le revendiquer, ça. Donc il y a ça, il y a les retraités, puis il y a d'autres retraités. Ma foi, ils ont fait d'autres choix, qui est le choix de se sentir vieux et de rentrer dans la catégorie et dans la case des vieux. Donc moi, j'en suis pas là. Pour l'instant, voilà. Non, je n'en suis pas là.
Si je te dis, il n'y a pas d'âge pour déconner.
Pour déconner. Ouais.
Est-ce que tu te sens plus libre qu'avant ?
Plus libre de déconner ? Non, pas forcément. Non, non. J'ai jamais été un grand déconneur. Mais par contre, j'ai jamais été un grand fêtard. J'ai jamais été... Non, j'ai toujours été un mec relativement sérieux. Mais pour qui l'humour est quelque chose d'une puissance extraordinaire. C'est-à-dire que je pense que la meilleure des métaphores du monde, c'est quand même l'humour. Où le recours à l'humour permet de produire les meilleures métaphores et d'accéder au sens des choses. Voilà. Donc j'utilise beaucoup, beaucoup, beaucoup l'humour. Et en ce sens-là, dans une réunion, je ne peux pas m'empêcher de déconner. Mais à ma manière, c'est-à-dire plutôt en manipulant les mots, en manipulant l'humour, en fait, l'humour de situation, voilà, ce qui permet d'égayer parfois certaines réunions ou certains débats un peu trop sérieux, mais qui ne manque jamais de produire du sens, quoi. Voilà.
Est-ce que tu te sens heureux aujourd'hui ?
Pas complètement, non. Non, non, pas complètement. Je me sens beaucoup plus heureux en ménage, en famille, beaucoup plus équilibré, je veux dire, c'est ça. Je me sens en meilleure santé, et ça c'est important, parce que j'ai quitté la vie professionnelle dans un état de santé quand même assez dégradé, avec pas mal d'indicateurs qui étaient passés au rouge. Donc j'évacue maintenant le stress que j'avais accumulé, je retrouve des indicateurs de santé corrects. Mais est-ce que je suis heureux pour autant ? J'ai pas encore réussi à me construire un sentiment stable et équilibré de ce que je suis censé être devenu aujourd'hui, c'est-à-dire un retraité. Voilà. Peut-être que je confonds encore retraité débâcle, c'est possible.
Non, non, débâcle. Il n'y a pas de débâcle dans la retraite.
Ah, ben non, si, non, 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 si, Napoléon, par contre. C'est,
D'accord. Mais voilà. Est-ce que tu as des rêves ?
Ah oui, beaucoup, oui. Oui, oui. Ouais. Je rêve de casser la gueule à tous les gens qui... qui nous propose une vie épouvantable aujourd'hui, faite de violences, de mensonges, etc. Voilà. Non, oui, est-ce que je rêve ? Oui, 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 je rêve encore, heureusement. Mais c'est difficile, c'est de plus en plus difficile. J'ai le souvenir quand même que j'avais beaucoup plus de rêves, et de rêves attractifs qui me mettaient en mouvement. Hein, j'étais capable, beaucoup plus facilement avant, de répondre à la question « qu'est-ce qui me meut ?», tu sais. Mm-hmm. Voilà. Aujourd'hui, j'ai plus de mal. J'ai plus de mal parce que j'ai accumulé beaucoup de, je pense, de désillusions, etc. Et puis, force est de constater que les issues pour passer à un monde meilleur ne sont pas évidentes. Et ça, mon petit côté un peu idéaliste, qui aimerait bien que les choses aillent bien tout le temps, ou aillent de mieux en mieux, il n'est pas très flatté en ce moment, quoi. Je suis plus mu par la crainte que par quelque chose que par un rêve qui me mettrait en mouvement ou en action, parce que je pour l'instant je vois pas très bien ce que, voilà, à part entrer en résistance, mais j'y suis pas encore complètement, quoi, voilà. Mais je pense que ça va être l'issue.
Quelle serait la pire chose dont on pourrait te priver aujourd'hui?
De ce sentiment de liberté que j'ai pu avoir et comment dire, participer à la construction de laquelle j'ai pu participer, justement par mes moments militants, cette liberté de penser, cette liberté de parole, cette liberté de toutes ces libertés, tous ces acquis sur les libertés qu'on a construits depuis quelques petites décennies, j'y tiens profondément, beaucoup. Et le fait de les voir être combattus aujourd'hui de façon complètement inconsciente et irresponsable me fait beaucoup mal. Ouais.
Comment tu vois ton futur?
Une bonne bière. Comment je le vois? C'est comment j'aimerais le voir, peut-être plus. J'aimerais très rapidement et le plus vite possible passer ce stade d'indécision dans lequel je suis un peu actuellement, pour passer à un statut extrêmement actif, soit dans la résistance dont je parlais tout à l'heure, soit dans la construction d'autre chose, etc., dont je peux avoir l'idée. Si, enfin, trouver, parce que j'espère bien avoir de nombreuses années à vivre encore, et je fais tout pour ça, parce que je suis convaincu que j'y ai des choses à construire encore, et que j'ai aussi des choses à apporter. Comment je vois ma vie? Je vois ma vie comme une vie d'activité sociale, hein, mais pas n'importe laquelle. Je suis en train de la construire dans ma tête, j'imagine, en ce moment. Et puis, un avenir de découverte et de voyage. Voilà. Mais aussi de repos,
de piano.
De piano, oui, de piano, ouais, de musique, oui. Ouais.
Peut-être aller vers les chemins de l'artistique?
J'ose pas trop parce que c'est un peu tard, mais bon, c'est con de dire ça. Ouais, ouais. Oui.
On a vu des comédiens à 90 ans.
Ouais, bon. Ok. Non, j'ai beaucoup de retard à rattraper sur l'artistique. Hein. Donc effectivement le piano, effectivement, mais faut travailler. Puis maintenant il y a l'arthrose, tu sais. Donc c'est pas tout à fait simple. Mais bon, néanmoins, on peut trouver son plaisir à n'importe quel niveau de performance, quoi. Bon, et puis ça va. Bon, piano, je veux pas dire que je maîtrise, mais je suis capable de faire quelque chose avec un piano. Donc, je suis capable de partager justement ça avec d'autres. Et d'autres musiciens en particulier. Donc, pourquoi pas monter un petit groupe de blues ou de rock, tu vois, des choses comme ça me plairait bien, tu vois. Voilà. Mais pas forcément pour se produire sur scène. Quoique.